Le cinéma peut-il se jouer de la guerre? On en parle aujourd'hui avec mes invités à partir de maintenant jusqu'à 13h30. Rendez-vous avec la marraine du 14e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui a débuté hier en Île-de-France entre comédie et films documentaires militants. Une édition qui met à l'honneur la Tunisie. Leïla Chaïd, ancienne déléguée générale de l'autorité palestinienne en France, puis ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne jusqu'en 2015, après plusieurs mandats politiques, elle a donc fait le choix de se consacrer à la culture et aux arts. Bonjour Leïla Chaïd.
Bonjour.
Invité de la première partie, l'historien et écrivain Shlomo Sand est resté avec nous. Rebonjour pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, Shlomo Sand.
Bonjour.
Leïla Chaïd, sur ce choix d'abord que vous avez fait de vous consacrer aujourd'hui à la culture et aux arts au lieu de la diplomatie, pourquoi ce choix? Est-ce qu'on est aussi efficace aujourd'hui quand on promeut le cinéma, la littérature et toutes les formes artistiques que quand on promeut les bonnes relations entre plusieurs
Je dirais malheureusement que on est beaucoup plus efficace en culture et en littérature, inclus d'ailleurs le polar que vient de publier mon ami Shlomo Sand, et je vous remercie de me le faire retrouver autour de cette table à France Culture, parce que c'est un grand ami, je suis très heureuse de partager cette table avec lui. J'ai arrêté parce que tout simplement, il n'y a plus de diplomatie. Il faut être une autruche pour penser qu'il y a une diplomatie palestinienne ou arabe ou européenne ou américaine. Il n'y a plus de diplomatie. Nous sommes dans une ère de guerre très, très inquiétante, parce que nous avons à la tête de la première puissance du monde un homme irresponsable qui sème la guerre, qui arme les États, qui veut déclencher une nouvelle ère contre l'Iran. Et sur le plan palestinien, nous avons une situation où Israël, mais Shlomo en parlera mieux que moi, va de plus en plus vers la droite et l'extrême droite et ne parle même pas du problème palestinien comme s'il n'existait plus, comme si on revient à 1950 où on ne voit pas qu'il y a des Palestiniens. Et la diplomatie palestinienne est d'une certaine manière décevante, elle est dans l'échec, elle a laissé beaucoup de fracture entre elle et son opinion publique. Ceci dit, la population palestinienne est plus courageuse que jamais, plus combative que jamais. Mais moi, je préfère en parler avec la société civile palestinienne, avec la culture palestinienne ou la culture arabe, parce que je ne sépare pas la culture palestinienne de son contexte arabe dans le Maghreb et le Moyen-Orient. Je suis très heureux d'être la mère d'un excellent festival qui est à sa 14e édition et dont cette année, le sujet est un pays qui me donne beaucoup d'espoir, lui.
La Tunisie.
Contrairement à la Palestine, c'est la Tunisie. Et les femmes tunisiennes.
Et ce festival confirme d'ailleurs la bonne santé du cinéma arabe pour vous.
Tout à fait, oui. Mm-hmm. 6 femmes réalisatrices. 6 femmes. C'est très important, dont la plus jeune est Kawsar Benhania, qui a ouvert hier avec un court-métrage qui en aura un long pour la soirée de la clôture qui est un documentaire qui s'intitule Zainab n'aime pas la neige. Et vous avez parmi elles, après plusieurs femmes cinéastes, Emnam Rabet, Rachida Amiri, vous avez Leïla Bouzid qui a eu la Palme d'Or pour son film il y a quelques années, qui fait un nouveau. Vous avez, elle n'est pas avec nous, mais c'est une grande cinéaste, Moufid Atlatli, qui avait fait Le silence des palais. Vous avez même une Canadienne d'origine tunisienne qui a fait un magnifique film qui plairait beaucoup à Shlomo, qui s'appelle Béatrice un siècle, un documentaire sur une militante tunisienne communiste, anticolonialiste, qui finalement a retrouvé mai 68 à Nanterre et qui a été la grande amie de Hélène Cixous et tous les grands militants, les grands dirigeants de mai 68. C'est vous dire combien le festival est riche de fiction et de documentaires.
Le sourcil de Shlomo Sand s'est levé quand il a entendu ce millefeuille d'identité et d'engagement aussi de cette cinéaste sur l'importance du cinéma aujourd'hui, Shlomo Sand, comme de la littérature, de la fiction, pour imposer peut-être et créer, ouvrir des brèches dans les récits officiels, dans les récits politiques. Cette autre forme de narration qu'offre le cinéma est essentiel.
Premièrement, avant que j'oublie, je voudrais insister que
Si je regarde l'Université de Tel Aviv, les cinéastes à l'Université de Tel Aviv sont beaucoup plus radicales et critiques en face des pouvoirs et par rapport à la conflit que les historiens ou les gens de lettres. Et ça, c'est un phénomène qui dure déjà longues années. Les cinéastes sont beaucoup plus critiques. Et même le dernier film qui a eu des échos à Paris est sur le synonyme. Je sais pas.
Oui, je l'ai vu déjà, oui.
Dont donc, on recevait le réalisateur
Nadav Lapid. Oui, de Nadav
Lapid. Ours d'or à la dernière Berlinale.
Toujours une tradition dans le cinéma israélien beaucoup plus ouverte, libre que l'écriture historique. Ça, c'est une première chose. C'est la raison, par exemple, que je m'intéressais il y a de longues années sur le rapport entre cinéma et histoire. Et je voulais comprendre comment le cinéma, à travers le XXe siècle, a raconté l'histoire. Donc j'écris un petit, et pas un petit livre, j'écris un livre,
le 20e siècle à l'écran. Voilà. Le 20e siècle à l'écran, préfacé par Michel Simon, notre monsieur cinéma ici à France Culture.
Et qui s'est paru chez Seuil. Donc oui, le cinéma peut exprimer des choses qui, à mon avis, l'écriture ne peut pas. Il n'y a pas de doute. Et l'impact des images, à mon avis, est différent pour le bon et pour le mauvais que l'impact des mots écrits. Hélas, c'est déjà longues années, je pensais que dans les lycées, dans les écoles, il faut développer une culture cinématographique de critique, c'est-à-dire être vacciné contre les images comme on était vacciné pendant 150 ans face à l'écriture, c'est-à-dire une dimension critique. Hélas, le système d'éducation n'a pas créé des outils pour des gens pour se confronter avec les images. Et je crois qu'en général, même qu'il y a des images critiques, même s'il y a des films merveilleux, et aussi en Israël et en Palestine, et les Palestiniens qui vivent en Israël créent maintenant un cinéma merveilleux, l'impact des images sur notre conscience, hélas, n'est pas toujours
surtout les images positive. Des médias.
Mais c'est une partie, c'est des images.
Oui, des images, bien sûr. Mais c'est pour ça que je trouve que le cinéma, et c'est pour ça que j'étais tellement heureuse, je suis toujours heureuse puisqu'on commence à peine et ça va jusqu'au 20 avril, je trouve que la France a le mérite de s'intéresser réellement à des cinémas qui sont, à cause de l'omniprésence du cinéma hollywoodien, qui sont négligés dans d'autres pays européens. Cinémas qui viennent d'Israël, du monde arabe, du Liban, de la Tunisie, du Soudan, du Sénégal. Vous ne trouvez pas cet intérêt. Hier, j'étais à l'ouverture et dans ce cinéma, l'écran, il y avait 400 personnes pour assister au court-métrage de Kawsar Benhania et au nouveau film de Sameh Zoubi qui s'appelle Tel Aviv on Fire qui sort dans les salles. Je ne suis pas sûre que vous trouverez Tel Aviv on Fire dans les salles, que ce soit hier en avant-première au festival ou dans les salles de cinéma commercial à Londres ou à Berlin ou à Rome. Et je trouve que dans la complexité du monde dans lequel nous vivons, vous avez raison de dire que c'est une autre manière de narrer la réalité qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à comprendre que les discours politiques ou ce que les médias nous donnent comme possibilité avec des images qui souvent vont vers des caricatures.
Alors projeté hier lors de la soirée d'ouverture de ce panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, 14e édition, vous l'évoquiez Leïla Chahid, c'était en avant-première, le film du réalisateur arabe-israélien Sameh Zoubi, Tel Aviv on Fire.
אחר כך, כשהם יישארו בלי מטוסים, נוכל למחוץ את שאר כוחות היבשה שלהם. ירדן בטיס שלהם.
חביב סלם לוולדה, עמק.
סלם מוסעד אינטג'י ג'ריד.
את נראית ממש פצצה.
תודה.
אני, תודה שאת כולה מרה צצה. יש מחתרם. מי אומר לבחורה, את נראית צצה? זה עכשיו בסדר או השפלה?
צא מהאוטו.
אתה תסרטה של תל אביב על אש?
כן.
אז מה, תגיד שהוא בסיר בנהיה?
לא, תשמע, אני באמת לא יכול לגלות.
פעמיים ביום אתה צריך לעבור במחסום שלי, אתה מבין? עכשיו תגיד לי מה קורה בסוף.
סלם, אם תפתר שתכתב כלמתן הבעל, בואי תבוסר לך שכסית, תקשר בכפייה.
תקשיב לי טוב, יהודה, הוא אלוף בצהל. הוא צריך להיות גבר, הוא צריך להיות רומנטי, הוא צריך להיות ג'נטלמן.
אפשר?
כתבתי לך זה כמו שצריך. טוב, מה אתה רוצה, נתחייך?
אה.
Extrait de Tel Aviv, On Fire. Vous allez peut-être pouvoir, Shlomo Sand, nous aider à comprendre ce qui se joue dans cet extrait. Et pour vous aider, je vais juste présenter le film. Hein. C'est l'histoire de Salam qui vit à Jérusalem, qui est stagiaire palestinien sur le tournage d'une série arabe à succès qui se nomme Tel Aviv on Fire. Leïla Chaïd, vous avez vu le film hier soir, alors oui. Tout va se jouer du quiproquo et de la rencontre entre Salam et un officier israélien, parce qu'il doit régulièrement passer le checkpoint pour se rendre à Ramallah. Il va faire croire qu'il est le scénariste du film.
Oui, ce qui est le plus attirant, et ça m'intéresse de savoir l'opinion de Shlomo.
Je n'ai pas vu encore le film.
Oui, mais c'est-à-dire c'est surtout l'humour. C'est de l'autodérision.
C'est une comédie.
Ça a été très applaudi hier, parce que les seuls qui utilisent ce genre d'humour et d'autodérision, c'est les Palestiniens israéliens, que ce soit en littérature, comme par exemple Emile Habibi avec le Pepsimiste, ou dans le cinéma, comme Elia Souleymane. Et là, c'est un nouveau jeune talent qui s'appelle Sameh Sobhi. Et les gens ont beaucoup apprécié, les personnes qui regardaient ce film. Ils ont tout compris, parce que les gens riaient beaucoup. Alors, en fait, il rit sur une situation tragique que tu connais bien, qui est celle des Palestiniens d'Israël.
Alors, ça, c'est une vraie question aussi. C'est est-ce qu'il y a un humour israélo-palestinien comme il y aurait un cinéma israélo-palestinien?
Il y a un humour qui me rappelle, dans les films palestiniens ou israélo-palestiniens, etc., qui me rappelle, si je puis dire, les humours yiddish à l'Europe de l'Est, il y a 100 ans. Et c'est incroyable que je vois les textes et je vois quelque chose de très ancien qui s'exprime chez les cinéastes palestiniens, s'émettant beaucoup d'ailleurs. Ils n'ont pas perdu de mur et ils continuent avec quelque chose qui est très cher pour moi, à cause que c'est l'héritage aussi des Yiddish.
Oui,
de l'Europe de l'Est.
C'est-à-dire
des gens faibles. Oui. Qui face au monde a dû.
Je pense que c'est une situation typique dans, lorsque l'écrasement atteint un tel degré, l'humour est une manière de résister à l'écrasement, et ça donne quelque chose de très spécifique. Et je suis très heureuse que ce film soit en avant-première au festival et dans les grandes salles. Et je trouve que les gens devraient aller le voir. Il a, c'est vrai, eu un prix au festival de Berlin, mais je pense qu'il le mérite réellement. Et je trouve que l'acteur joue très bien son rôle, qui correspond à quelque chose qui est l'antithèse de l'image du Palestinien militant, qui est le Palestinien qui est écrasé, mais qui, par son humour et par sa malice, arrive à avoir le dessus.
Et d'ailleurs, les rôles de femmes dans la création de cinéma aujourd'hui en Israël, palestinien aussi, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu ici et là-bas, c'est-à-dire
ici et ailleurs.
Ici et ailleurs. Donc, un film d'une jeune palestino-israélienne qui a fait un film qui a fait beaucoup de bruit.
Je pensais que tu parlais de Jean-Luc Godard. Non, ici et là-bas, je n'ai pas vu.
Oui, c'est Oum El Farem et Tel Aviv.
Ah oui, très bien.
Entre les deux, trois filles. Qui vit à Tel Aviv, des villages.
Mais j'ai lu beaucoup, oui.
Oui, c'est un film incroyable, incroyable. Beaucoup de hommes palestiniens n'ont pas aimé.
Sur la liberté sexuelle des femmes.
Beaucoup de hommes palestiniens n'ont pas aimé le film.
Parce que c'est sur la liberté sexuelle.
Oui, entre autres aussi, et aussi les inégalités profondes de vivre comme arabe à Tel Aviv.
Mais alors, Leïla Chaïd, Shlomo Sand, est-ce à dire, comme vous l'avez évoqué, parce qu'il y a cette guerre d'image, que le cinéma doit entrer en guerre à sa manière?
Non, moi je ne pense pas du tout que ce soit une guerre. Lorsque vous voyez par exemple ce film dont on parle, ou lorsque vous regardez les films de Elia Souleymane, ou si vous regardez le cinéma de Maï Masri qui montre encore une fois dans le festival 3000 nuits qui est sorti l'année dernière dans les grandes salles, vous voyez exactement comment il y a un retour vers une tentative de narration qui est loin du discours idéologique. Alors, pour certains, ceux qui ont, comme Elia Souleymane et Zoabi, la capacité d'avoir recours à l'autodérision pour parler de la réalité palestinienne en Palestine, dans les territoires occupés ou dans la diaspora. Et puis, vous avez ceux qui essayent d'avoir un retour sur les conditions, par exemple, des femmes prisonnières, qui est le fond du film de Maï Masri. Ce n'est pas du tout une guerre, c'est une forme, je dirais, de retour sur... Vous savez, peut-être que c'est le seul conflit au monde où on a autant défiguré la réalité en prétendant que c'était une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Et Exodus, le premier film sur Israël, a raconté une mythologie qui est tout à fait comme la mythologie dont parlait Shlomo chez certains historiens sionistes qui insistent sur l'idée du retour d'un peuple qui a été en exil à Babylone il y a 3000 ans. Et donc, on est en train de démythifier tous les discours idéologiques, qu'ils soient arabes ou israéliens ou européens ou américains. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai, je pense par exemple au très bon film Vice sur le Vice Chairman Dick Cheney qui est en salle aujourd'hui à Paris. Il démonte tout ce qui s'est passé vraiment en Irak en 2003 et je pense qu'il dit beaucoup plus que beaucoup de livres.
Je voudrais ajouter quelque chose parce que j'ai vu dernièrement un film d'un Israélien, maître en scène israélien qui s'appelle Danny Waxman, qui a fait un film qui n'a pas encore sorti en France, qui s'appelle Akko Dreams.
Akko Dreams, la ville de mon père, oui.
C'est-à-dire la ville de Jean d'Acre, oui, et les rêves. Oui. Un film merveilleux, sur le conflit d'ailleurs, oui, dès 48 jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça va apparaître un grand jour en France parce que c'est un film merveilleux. Oui. Et ça montre une chose qui est peut-être les présences des physiques dans les images est plus fort que les discours historiques. Vous comprenez? C'est la raison que dans le cinéma israélien, il y a plus de critiques que dans la littérature. Oh, et je crois que les grandeurs, si vous voulez, de création aujourd'hui palestinien, c'est dans le film et dans la poésie. Beaucoup plus que la littérature, je crois. Après la mort de Hassan Kanfani, il y avait des grands écrivains.
Oui, oui, oui.
Mais Emile, c'est littérature Habib, et poésie. Alors, cinéma et poésie.
On vous attend bientôt, je le me sens derrière une caméra. Du coup...
Ah non, c'est trop tard.
Ça c'est trop tard.
Non,
vous avez dit que c'était trop tôt.
Moi, je voudrais vous raconter à vous, aux auditeurs, une histoire que j'aime beaucoup et dont j'ai été témoin par hasard. J'étais avec Shlomo dans une conférence qui rendait hommage à Pierre Vidal-Naquet, son directeur de thèse et mon grand ami. Et puis, je lui ai dit ce que Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien, avait partagé un jour avec moi. C'est que le vrai personnage d'un de ses premiers poèmes publiés en 1967, qui est « Le soldat qui rêvait des lys blancs », eh ben, c'est Shlomo Zand. Et ce poème, qui est magnifique, je vous lirai un petit passage, racontait en 67, ce soldat qui revient donc de son service militaire et qui en fait ne rêve que d'une chose, c'est de paix et de coexistence et qui est obligé de raconter et qui il va nous raconter lui comment il a passé la nuit à raconter à son ami Mahmoud Darwish ce qu'il avait traversé comme expérience. Et Darwish, à la fin de la nuit, a écrit ce magnifique poème. Si on a le temps, je vous lirai quelques lignes
maintenant, alors,
de ce poème.
Maintenant, parce qu'après, il ne faut jamais remettre plus tard.
D'accord. Alors, vous me permettez...
Alors, pendant ce temps, vous voulez nous raconter?
Trop ému. Alors, c'est une des strophes. Au quatrième vers, parce qu'ils ont bu beaucoup de vers. Au quatrième vers, j'ai dit taquin, ainsi tu partirais. Et la patrie, parce qu'il voulait quitter Israël, Shlomo. Il me répondit, laisse tomber. Je rêve de lys blanc, d'une rue qui gazouille et d'une maison éclairée. Je quête un cœur bon, non des munitions, un jour ensoleillé, non un instant de folle victoire fasciste. Je quête un enfant souriant au jour, non une place dans la machine de guerre. Je suis venu ici vivre le lever des soleils, non leur coucher. Et je trouve qu'il faut rappeler, parce que ça c'est il y a 53 ans, que la poésie de Darwish déjà avait dans cette évocation de cette nuit que vous avez passée ensemble, fait un magnifique poème. Et je trouve que quelquefois la poésie en dit beaucoup plus que plein de discours politiques. Comment tu as retrouvé cette nuit, Mahmoud Darwish?
Je suis revenu de la guerre de Jérusalem. J'ai combattu à Jérusalem, hélas. À 67, j'étais déchiré, je voulais quitter, j'ai failli à mourir. Et j'ai dû tirer aussi pour des gens que je n'ai pas pensé qu'ils sont mes ennemis. Donc, comme j'ai connu Mahmoud avant la guerre, donc je suis allé, il m'a accueilli plusieurs fois chez lui à Haïfa. Et donc, après une longue conversation et beaucoup d'alcool, il a écrit cette poème qui, à mon avis, c'est une partie de mon long voyage et peut-être le point de départ de mon voyage historiographique et actuellement aussi romanesque, etc. Je crois que Mahmoud Darwish a joué un grand rôle dans mon développement et le fait que j'ai insisté sur quelque chose.
Et il a été très heureux de te voir revenir à tous les livres d'histoire, puisqu'on a partagé ensemble aussi cette complicité.
Et 5 juin 1967, le début de la guerre de 6 jours, ça a été une date importante pour vous deux, une rupture dans vos deux vies, le début de la prise de conscience, le début aussi de l'engagement, et c'est pas le moindre de vos points communs aujourd'hui, Shlomo Sand, Leïla Chaïd. Puisqu'on a commencé à remonter le fil de l'histoire, on va continuer à le faire en images. En 1970, il a séjourné dans les bases de l'OLP en Jordanie. À son retour, il écrit Les Palestiniens. En septembre 82, il découvre les massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila à vos côtés, Leïla Chaïd, et il retrouve sa plume pour 4 heures à Shatila, puis un captif amoureux. C'est ce parcours d'un poète combattant que reconstitue le film de Michel Colléry, présenté le 17 avril dans le cadre du Festival Ciné-Palestine, avec cette 14e édition de Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. On écoute un extrait de Un captif amoureux.
Le plus important, ce qui était le plus important pour moi, je l'ai mis dans mes livres. Pas parce que je parle à la première personne. Le je, dans ce cas-là, n'est pas autre chose qu'un personnage un peu magnifié. Je suis plus proche de ce que j'ai écrit, que je suis plus près dans ce que j'ai écrit, parce que vraiment, je l'ai écrit en prison. Et j'étais persuadé que je ne sortirais pas de prison.
Et le captif amoureux, c'est Jean Genet. Leïla Chaïd, c'était une archive INA où l'on entend sa voix.
Oui, Jean Genet, sa voix gutturale, ouais. Rongée par le cancer déjà, oui.
C'était un ami, c'était aussi un auteur qui a compté beaucoup, peut-être pour vous deux, un engagement par l'écriture. Ce film retrace bien les liens qu'il avait noués aussi avec cette région, avec ses populations, son empathie pour les sans-terre, pour les humilier, comme vous l'avez déjà dit, Leïla Chaïd.
Oui, je pense que réellement, Genet est un homme qui a conduit son destin de manière choisie, absolument extraordinaire. Je l'ai côtoyé 10-11 ans, ce qui était un immense plaisir parce que c'était un homme tellement malicieux, brillant, et j'ai eu la joie de voir naître ce magnifique livre qui ne ressemble à aucun autre, Un captif amoureux. Et il a choisi d'aimer les nomades, les déracinés, les marginaux, et sa première expérience a été bien sûr avec les combattants en Jordanie en 70, lorsqu'il a été à la demande de Mahmoud Lahamchari. Et puis il a fait une grande pérégrination à travers le monde pour se retrouver en 82 avec moi à Sabra et Shatila, mais on n'avait aucune idée qu'on allait vivre un tel, telle tragédie
découvrir,
parce qu'on pensait que la guerre était terminée. Et ce qui compte, c'est que ça l'a ramené à l'écriture. Et ce film de Michel Colléry raconte très bien, avec des témoignages de plusieurs personnes qu'il a bien connues, dont Albert Digy, qui est un peu l'héritier à l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, de toutes les archives de Genet, sa correspondance, les images, les voix, et qui permettent à tous ceux qui s'intéressent à Genet d'aller à l'IMEC pour retrouver les traces de Genet qui sont sans fin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inédites et que Gallimard, petit à petit, pourra publier. Mais c'est sûr que pour les Palestiniens, il est peut-être avec Jean-Luc Godard au niveau du cinéma, et Shlomo Sand, au niveau des historiens, un des plus grands amis de ce peuple palestinien si courageux.
Et alors, vous vous rencontrez dans les années 70 à l'OHESS.
75 à Paris. Oui, j'étais étudiante et c'est à cette période que je le connais. Et puis, on est restés amis jusqu'à sa mort.
Et vous vous rencontrez aussi à ce moment-là, Shlomo Sand?
Non, je n'ai pas connu Genet.
Mais vous étiez quand à l'OHESS, vous?
Ah non, plus tard. Mais avec Genet, c'est-à-dire, je dirigeais une maîtrise à Tel Aviv avec mon meilleur étudiant qui a fait une maîtrise sur Genet. Et si je peux jeter comme ça, il y a certains liens entre Genet et les romans policiers que j'ai,
ah oui,
que j'ai écrit, mais je ne veux pas mentionner ça maintenant vers la fin de l'émission. Il y a certains liens très importants.
On le trouvera en lisant, mais...
Oui. Entre Genet et le polar.
Sans la caméra, les faits n'existent pas, dit-elle, dans un long et passionnant entretien à la revue Ballast. Vous l'avez cité tout à l'heure, Leïla Chaïd, et j'en reviens au cinéma. Maï Masri, cinéaste palestinienne née en Jordanie, en 2017, elle a réalisé sa première fiction qui est actuellement projetée dans le cadre du Festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient.
D'une c'est histoire 3000 vraie, nuits. Totalement vraie. Oui.
L'histoire d'une femme au début des années 80, on retrouve cette période-là, c'est avant la découverte des massacres de Sabra et Shatila. L'histoire d'une femme qui donne naissance ou qui décide de donner naissance à son enfant dans une prison israélienne où elle est détenue avec d'autres prisonnières politiques palestiniennes. Extrait.
מי זאת?
לאחר שבית המשפט הרשיע את הנאשמת בסיוע לפיגוע טרור.
יש מכתוב!
מה חלית שימה נפי? תפתיני פשוענה.
לזם נדעי לאגרב. לילה.
Extrait de 3000 nuits de May Masri, qui est aussi diffusé dans le cadre de ce festival, Leïla Chaïd, et pour qui la cinéaste, elle dit que le cinéma est aussi devenu un moyen de donner un sens à nos vies déracinées. On voit l'importance du cinéma pour créer d'autres imaginaires, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi l'importance du 9e art comme art de résistance.
Oui, tout à fait. Dans le magnifique scénario que May a écrit et qu'a pu elle a réalisé et qui est parti à partir d'une histoire qu'une femme lui raconte sur comment elle a décidé d'accoucher puisque le mari l'a abandonnée et qu'elle a été enfermée parce qu'on a pensé qu'elle avait aidé un jeune homme qui était blessé sur la route, ne sachant pas qu'il avait fait une opération, et elle s'est fait accuser de complicité et de terrorisme. Et le film est magnifique parce qu'aussi il est d'une humanité extraordinaire parce qu'il y a la section des femmes israéliennes prisonnières et la section des femmes palestiniennes prisonnières. Et dans le film, on voit que ce n'est pas une dichotomie femmes arabes seules et femmes palestiniennes seules, mais aux femmes israéliennes seules, et qu'il se passe des choses au niveau humain entre certaines prisonnières israéliennes et certaines prisonnières palestiniennes qui est d'une authenticité et d'une force qui vaut tous les discours. Parce que lorsqu'on tient absolument à mettre dans des camps adverses palestiniens et israéliens, on a besoin de ce genre de narration, histoire qui part d'une histoire vraie pour nous raconter que c'est beaucoup plus complexe. Et c'est là où je trouve que le cinéma, comme Shlomo a dit, aussi à cause de... C'est très bien joué, très très bien joué. Avec cet enfant qui joue d'une manière absolument extraordinaire. Vous savez, nous avons plus de 350 femmes prisonnières, nous avons 6000 prisonniers, dont d'ailleurs 300 enfants qui sont mineurs prisonniers. Les prisonniers est un secteur très important de la population palestinienne, probablement la plus grande proportion par rapport à la taille de la population. Et je trouve que c'est très important qu'on connaisse la réalité de la vie quotidienne. Certains passent 30 ans, 35 ans en prison, où les enfants qui ne passent jamais devant un juge dans ce qu'on appelle la détention administrative et qui ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, surtout les dernières années depuis l'arrivée du grand roi d'Israël, M. Benjamin Netanyahou, il y en a plus que jamais en prison. Et je trouve que c'est très important pour les Palestiniens déjà, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à la Palestine parmi leurs amis au monde, de réaliser combien ce passage est comme une école de résistance non violente, parce qu'en prison, ils ne peuvent pas avoir recours à la violence. Et le film de May Masri est magnifique et mérite d'être vu et revu à plusieurs reprises. Et très bien joué, alors très bien filmé.
La palestinienne Leïla Chaïd, vous, l'israélien Shlomo Sand, vous avez l'un comme l'autre connu les espoirs de la paix. Vous avez ressenti cet espoir après la signature des accords d'Oslo. Ça a été un moment historique qu'on retrouve d'ailleurs en filigrane dans votre roman Shlomo Sand, ces 20 ans qui ont aussi fait l'histoire, mais ça a aussi été une chance gâchée qui ne s'est plus jamais représentée. Les leçons d'histoire, vous avez pu les tirer l'un comme l'autre. Comment vous vous décririez aujourd'hui, lucide, pessimiste, où en est-on, Shlomo Sand?
Moi, je suis actuellement dans la situation très tragique aujourd'hui dans ces conflits. Premièrement, je crois que, comme Leïla a dit tout à l'heure, que l'art, certaines images dans l'art résistent mieux que les pensées savantes face à la réalité. Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois vraiment que certaines images résistent mieux. Je suis pessimiste, mais pas fataliste. Je répète ça partout. Premièrement, parce que je ne sais pas comment se déroule demain, je sais qu'une partie de mes ancêtres étaient des situations plus tragiques que les Palestiniens, et ils ont surmonté ça, et je suis sûr, et si vous voulez, même avec tout le pessimisme, que le mal ne va pas gagner au Proche-Orient. Et je suis sûr que quelque chose va arrêter un certain processus aujourd'hui qui vraiment devient tragique. Et on voit avec l'élection qui se déroule en Israël.
Ce sera le 9 avril, hein, avec une mise en examen annoncée probable dans des affaires de corruption de Benjamin Netanyahou. Oui. Est-ce qu'il a d'ailleurs les clés pour obtenir pour vous un cinquième mandat?
Je crois que l'élection ne va pas donner rien du tout parce que dans le débat électoral, les Palestiniens n'existent pas. Et s'il existe, c'est comme l'ennemi farouche de peuple juif de 2000 ans. C'est incroyable ça, le discours vulgaire aujourd'hui dans l'élection. Et donc je n'attends pas rien du tout, mais il faudra regarder les cartes du Proche-Orient pour savoir que tout l'imaginaire de certains leaders israéliens sur l'avenir avec Trump ou sans Trump, sur l'avenir du Proche-Orient, ne sont pas vraiment des réalités. Je ne sais pas si je m'exprimais bien. Ils ne sont pas des réalités. Ça ne veut dire pas que ça va terminer bien. Je ne sais pas, je ne suis pas un prophète. J'essaie de prophétiser le passé et pas le futur. Et j'ai à peine arrivé à prophétiser le passé. C'est la raison que j'ai décidé d'être écrivain et pas historien.
Leïla Chaïd.
Oui, moi je dirais que nous, on n'a plus aucune illusion, malheureusement, parce que dans les dernières 25 années, on a vu 9 premiers ministres passer. Et je dirais que depuis l'arrivée en particulier de Netanyahou, il a été le plus destructeur. Parce qu'en fait, il est venu pour détruire les accords d'Oslo. Et aujourd'hui, il y a un mouvement vers la droite et l'extrême droite. Il y a aujourd'hui, dans la coalition qu'il va mettre en place, des partis qui sont interdits aux États-Unis pour racisme, comme le groupe de Kahana. Il y a des partis comme celui de M. Naftali Bennett qui sont racistes, fier de l'être, et donc nous n'avons aucune illusion, surtout que Trump est là pour détruire toutes les références d'aucune négociation. C'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est de soutenir la société civile, soutenir les créateurs palestiniens ou arabes. Je voudrais rappeler que demain, le 5 soir, à partir de 8h, on rend un hommage à Jocelyne Saab, mon amie cinéaste, qui a été une des premières Libanaises à filmer les camps palestinien, même avant que je n'aie ni débarque, qui a filmé les combattants palestiniens, qui a donné sa vie au cinéma, elle a aussi filmé la guerre civile. Et je pense que soutenir la population palestinienne en Palestine, mais aussi dans les camps de réfugiés, pour moi est beaucoup plus important qu'une pseudo-diplomatie qui n'existe pas, pour le moment.
Merci.
Mais je ne suis absolument pas pessimiste, parce que la société palestinienne, elle va très bien, elle est plus combative que jamais, il y a rien que voir ce qui se passe à Gaza pour savoir qu'ils n'ont pas baissé les bras.
Merci beaucoup Leïla Chaïd. Je rappelle que vous êtes la marraine du 14e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui a débuté hier avec Tel Aviv on Fire et 2 courts-métrages donc en ouverture de ce festival hier en Ile-de-France. Une édition qui met à l'honneur le cinéma tunisien et les femmes tunisiennes. Merci beaucoup à vous Shlomo Sand. La mort du Khazar rouge, votre premier roman, votre premier polar vient de paraître aux éditions du Seuil. Peut-être une suite d'ailleurs à suivre. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a programmé et préparé cette émission, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, avec l'aide précieuse, très précieuse, de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Eilig avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous sur France Culture.